Alors, Prendre le droit est une association féministe qui est née en 2012. L'objet principal de Prendre le droit, c'est de lutter contre les violences sexuelles. Dans la pratique, on accompagne des personnes, quel que soit leur sexe, qui ont subi des violences sexuelles, et on les accompagne en fait sur leurs procédures juridiques et judiciaires. Alors actuellement, l'association est composée de 7 bénévoles. Donc il y a Laure, Ornella, Claire, Clem et Nolwenn. Nolwenn qui se cache. Et moi-même, Aurélie. Alors une précision importante que nous voulions poser, c'est que nous ne sommes pas juristes. Deux d'entre nous le sont dans l'association. On pense que le droit doit être accessible malgré sa complexité. Alors du coup, notre lecture des lois, nous, se fait principalement par le prisme de notre pratique, c'est-à-dire l'intervention auprès des personnes victimes de violences sexuelles, et aussi par le prisme de nos réflexions et nos analyses féministes. Alors, le sujet de ce soir, la correctionnalisation des crimes de viol, est assez technique. Donc on va tenter d'être les plus accessibles possibles, et on a aussi bien conscience que vous n'avez pas, a priori, le même degré d'information, de connaissances sur le sujet et en termes de droit. Voilà, donc on va tenter d'être accessible. Donc on avait envie de vous donner quelques chiffres assez évocateurs. Alors en fait, l'INED, qui est l'Institut National des Études Démographiques, a mené en 2015 une enquête qui s'appelle Virage. Alors cette enquête en fait nous révèle qu'une femme sur 7 déclare avoir été victime d'une forme d'agression sexuelle, viol y compris. Et que ce rapport pour les hommes est d'un homme sur 20. Cette enquête nous révèle aussi que 75% des hommes victimes désignent des hommes comme agresseurs et 95% des femmes victimes désignent des hommes comme agresseurs. Alors, pour correspondre à cette réalité sociale, ce soir, nous faisons le choix de parler de femmes victimes et d'hommes agresseurs. Alors, venons-en maintenant à la thématique qui va nous préoccuper tout au long de cette soirée. En deux mots, et bien sûr on y reviendra plus tard précisément, en fait la correctionnalisation, c'est le fait de transformer, de requalifier le crime de viol en délit d'agression sexuelle. En d'autres termes, au lieu d'être jugé devant un tribunal, devant une cour d'assises, le viol est jugé en tribunal correctionnel, comme un délit. Depuis la création de Prendre le droit, nous sommes régulièrement sollicités par des femmes ou par des parents de mineurs qui ont subi des viols et à qui la correctionnalisation est imposée. Alors ces personnes-là ne comprennent pas pourquoi. Donc nous, on va tenter ce soir en fait de vous expliquer les mécanismes politiques, juridiques qui se mettent en place. Et pour pouvoir vous expliquer la correctionnalisation, on va devoir faire des détours. Donc on va faire des détours sur l'historique. On va essayer de comprendre ensemble comment s'organise la justice et le droit applicable en matière de violences sexuelles, précisément. Notre prise de parole va durer une heure environ, et ensuite vous pourrez poser vos questions. Alors une chose aussi très importante qu'on tenait à vous dire, c'est qu'on va parler très concrètement des violences sexuelles et que cela peut être difficile à entendre. À l'issue de notre prise de parole, donc comme je le disais, vous pourrez poser vos questions. Normalement, vous avez reçu des petits post-it de la part d'Agathe et Ornella. Donc en fait, tout au long de la conférence, vous pouvez écrire vos questions sur ces post-it pour ne pas les oublier. Et donc à la fin de notre prise de parole, on pourra récupérer ces post-it. Et vous aurez aussi un temps pour vos questions orales, si vous le souhaitez. Alors, nous avons écrit un livret d'informations. Voilà. Donc ce livret, en fait, reprend tout ce qu'on va évoquer ce soir. Et on vous le distribuera à la fin, si vous le souhaitez. Donc je profite de cette introduction pour remercier la ville de Rennes et le pôle particulièrement Mission Égalité Femmes-Hommes, la Fondation des Femmes pour leur soutien financier. Merci à Agathe et Salima, les bénévoles de ce soir, pour leur coup de main. Merci au CRIJ de nous accueillir et particulièrement à Simon, régisseur de la soirée. Et pour finir, merci à Sophie Péchaud pour le graphisme du livret d'information. Enfin, un merci particulier aux femmes que nous avons accompagnées et que nous accompagnons encore aujourd'hui, pour la confiance qu'elle nous accorde. Pour illustrer la thématique, on avait envie de vous présenter deux scènes de théâtre qui vont amorcer notre propos. Alors, ce sont deux scènes qui ont été inspirées, qui sont inspirées de notre pratique à prendre le droit. Je précise que c'est de la fiction, mais que c'est fortement inspiré de la réalité. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Merci. Bonsoir. Alors, moi, je suis Madame Buvard. J'ai 55 ans et je suis procureure de la République en Bretagne depuis 23 ans maintenant. Je suis garante de l'ordre public. Je défends l'intérêt de la société.
Bonsoir, je suis Madame Nashi. J'ai 43 ans et je suis juge d'instruction depuis une dizaine d'années. En matière de violence sexuelle, j'ai développé une certaine expertise. Allô ?
Bonjour, Madame Nashi ?
Oui, Madame Buvard, bonjour, comment allez-vous ?
Je vais bien, merci. Alors, je vous contacte concernant le dossier de Madame Bouvier.
Madame Bouvier ?
Oui.
Oui, oui. Oui, j'y suis, dites-moi.
Bon, écoutez, Madame Nashi, alors moi je suis prête à rendre mes réquisitions. Hein, et au vu des éléments du dossier, j'aimerais que l'on discute d'une correctionnalisation.
Ah oui, je suis étonnée. Le dossier n'est pas si faible. Étant donné que l'accusé est passé aux aveux, l'affaire pourrait être envoyée aux assises.
Oui, oui, bien sûr, mais vous savez bien mieux que moi, Madame Nashi, que parfois les accusés se rétractent. Bon, et puis entre nous, la qualification du viol n'est pas du tout évidente là. Hein. Moi, je pense que les jurés en cour d'assises ne vont pas du tout considérer cette fellation forcée comme un viol. Hein.
Oh, Madame Buvard, MeToo est passé par là depuis. Bon. J'estime que les jurés sont capables de comprendre ce viol.
Bon, écoutez, MeToo ou pas, moi je pense que les jurés vont être très très confus par rapport à cette qualification. Et puis entre nous, Madame Nashi, bon, je pense qu'on a d'autres priorités pour les assises, non ?
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Bon, écoutez, je vais appeler son avocate et je vais voir ce qu'il en est.
Très bien. Bon, écoutez, j'appelle, j'attends votre coup de fil la semaine prochaine.
Oui, oui, je vous tiens informée.
D'accord, très bien, merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir, Madame Nashi.
Bonsoir, Madame Gomez, 36 ans, avocate de formation. J'ai toujours rêvé d'exercer cette profession et aujourd'hui j'ai un cabinet à Rennes. Depuis des ans, je défends Madame Bouvier. C'est une femme qui fait preuve d'une grande détermination dans sa procédure. Bon, il arrive parfois qu'elle soit un peu dépassée par ses émotions et sa colère, mais notre collaboration est solide et je pense qu'elle va porter ses fruits.
Bonsoir, moi je suis Madame Bouvier, j'ai 46 ans et je suis infirmière. Avec mon compagnon, on a le même groupe d'amis depuis des années. On mange ensemble le week-end, on part en vacances, quasiment tous les étés ensemble. Notamment avec Luc et Isabelle. Il y a 5 ans, j'ai été victime d'un viol au cours d'une soirée d'été. Ça a été compliqué de déposer plainte contre Luc, mais j'y suis arrivée. J'en peux plus de cette procédure, ça fait trop longtemps que ça dure, j'ai envie que ça s'arrête.
Bonjour Madame Bouvier.
Bonjour.
Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, voilà, Madame Bouvier. Ça fait plusieurs mois que l'on ne s'est pas vu, comment vous sentez-vous ?
Ça va, je suis un peu fatiguée, j'en ai marre.
Oui, j'imagine. Bon, figurez-vous que j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Puisque j'ai eu au téléphone, pas plus tard que la semaine dernière, Madame Nashi, la juge d'instruction.
Ah oui, je vois.
Vous voyez ? Alors, Madame Nashi m'a informé que l'enquête était instruite, hein, donc l'enquête est terminée. Ce qui veut dire que l'on est à une étape décisive de la procédure, puisque aujourd'hui, l'enjeu, et je pense que vous en serez d'accord avec moi, c'est que M. Luc Berman soit renvoyé devant un tribunal, jugé et condamné.
Oui.
Alors, c'est un petit peu différent de ce qu'on avait imaginé au début, puisque la proposition de Mme Nashi est de renvoyer M. Bergman devant le tribunal correctionnel. Donc, c'est vrai que ça change un petit peu la donne.
Je comprends pas pourquoi, c'est quoi qui change de maître.
Alors, c'est très simple. Au lieu de la cour d'assises, M. Bergman va être jugé devant le tribunal correctionnel. Mais je vous assure, ce sera bien moins éprouvant pour vous.
Attendez, je comprends pas. Vous m'avez toujours dit que comme j'avais déposé plainte pour viol, c'était la cour d'assises qui était compétente. J'arrive pas à...
Oui, tout à fait. Le viol est un crime, mais dans la pratique, vous le savez, puis vous l'avez vu jusque-là, hein, les choses ne sont pas si simples.
Ça, c'est sûr.
Le souci, c'est que devant la cour d'assises, les jurés ne vont pas très bien comprendre pourquoi vous avez continué de fréquenter M. Luc Berman.
Moi, je peux leur expliquer. Hein.
Oui, je vous fais tout à fait confiance, mais sachez également que devant la cour d'assises, il faut refaire entièrement l'enquête. On va redérouler l'ensemble de la procédure. C'est-à-dire qu'on va réentendre tous les témoins. Vous allez être réauditionnés. Et donc, j'ai peur que ce soit un peu long et éprouvant.
Oui, je sais, j'en ai marre. Je vous l'ai dit, je vous le dis tout le temps. Mais en fait, je comprends pas. Vous êtes en train de me dire qu'il y a la cour d'assises, le tribunal correctionnel. En fait, ils font la même chose.
Non. Ce sont deux tribunaux qui sont bien différents. C'est-à-dire que si on renvoie M. Berman devant le tribunal correctionnel, il sera jugé pour des agressions sexuelles et non pour des viols. Viol ou agression sexuelle, ça change pas grand-chose.
Bah si, ça change grand-chose, si. Enfin... bah si, ça change. Mais donc vous pensez-vous que c'est mieux ?
Alors c'est mieux... Disons que stratégiquement, devant le tribunal correctionnel, on a plus de chances qu'il soit condamné. Et puis, sachez également qu'une cour d'assises va mobiliser mon cabinet pendant 2 ou 3 jours. Donc, en termes d'honoraires, c'est pas non plus la même facture. Hein. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir, hein, de poser les choses... Enfin, voilà, de réfléchir à tête reposée. Et puis, vous me rappelez la semaine prochaine pour me donner votre décision.
Très bien.
Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, voilà, comme d'habitude, hein, pour le rendez-vous, vous voyez avec ma secrétaire.
Donc vous venez de voir les deux scénettes qui illustrent les échanges informels qui ont lieu dans le cadre de la correctionnalisation d'un viol entre les acteurs de la procédure, donc entre la procureure et la juge d'instruction et entre la victime et son avocate. Donc avant de détailler le processus, il est important pour commencer de comprendre l'organisation du système judiciaire. Et donc on va tâcher de vous l'expliquer avec Clémentine. Alors en France, il existe deux ordres, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. L'ordre administratif a pour mission de juger et de contrôler l'action de l'administration, par exemple les décisions de l'État ou des collectivités. Et l'ordre judiciaire, c'est tout le reste, et lui se découpe en deux catégories. D'un côté, le droit civil, de l'autre, le droit pénal. En matière de droit civil, ça couvre par exemple les litiges en matière de divorce, ou entre salariés et employeurs, ou encore entre agriculteurs et propriétaires terriens. De l'autre, on a le droit pénal, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Donc c'est un ensemble d'interdits posés par la loi afin d'assurer la vie en société. Ces interdits s'appellent des infractions, par exemple un vol, une agression sexuelle, un meurtre. Et donc c'est le code pénal qui se charge de définir les infractions. Concrètement, c'est l'État, alors incarné par le procureur de la République, qui va poursuivre les personnes qui ont commis l'infraction. Il s'agit de réparer l'atteinte à l'ordre public, causée à l'ordre public. La philosophie de la justice pénale est la suivante. Plus l'infraction commise est grande et grave, c'est-à-dire plus elle abîme la société, plus elle abîme la communauté dans son entier. Donc plus l'auteur de l'infraction, dans ce cas, risque une peine lourde. Et donc, Clémentine va vous détailler les infractions.
Alors, si on examine ce tableau, on voit que les infractions les moins punies sont les contraventions, puisque là, les mises en cause encourent jusqu'à 1 an de prison. Ensuite, on a les délits, où là, les mises en cause encourent jusqu'à 10 ans de prison. Et enfin, les crimes, où là, les accusés encourent entre 10 ans de prison et la perpétuité. Alors, les violences sexuelles dont on parle ce soir, et qui sont au cœur du mécanisme de la correctionnalisation, elles se classent parmi les infractions délictuelles et criminelles, puisque, je le répète, les agressions sexuelles sont des délits et les viols des crimes. Enfin, le viol un crime. Alors, on peut voir aussi dans ce tableau que les tribunaux qui jugent ces infractions sont différents, puisque les délits sont jugés devant le tribunal correctionnel, tandis que les viols sont jugés devant les cours d'assises. Et ensuite, on peut voir aussi que, non, ce n'est pas écrit dans le tableau, mais la durée des procès, donc là, ça a été évoqué pendant la scénette, hein, elle est également différente selon qu'il s'agit d'un délit ou d'un crime, puisque devant un tribunal correctionnel, voilà, ça dure quelques heures le procès, alors que devant une cour d'assises, ça peut durer 2 à 3 jours, voire plus. Alors pourquoi cette différence de durée ? Parce que justement la composition du groupe de personnes qui rendent le verdict est différente. Devant un tribunal correctionnel, on a des juges professionnels, qui sont 3, alors que devant la cour d'assises, on a ces mêmes juges professionnels, mais on a aussi des jurés, c'est-à-dire des citoyens qui sont tirés au sort. Et donc, en fait, ces jurés n'ont pas accès à l'enquête, au dossier, aux éléments du dossier au préalable. Donc, en fait, c'est comme si on refaisait l'enquête devant les jurés pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée. Donc, ça veut dire qu'on va réentendre tous les témoins, on va réauditionner la victime, etc. D'où la durée. Donc, voilà un petit peu pour les éléments de cadrage. Maintenant, je laisse la parole à Laure qui va revenir sur l'historique du droit en matière de violence sexuelle.
Maintenant, je vais aborder une partie historique qui nous paraissait importante pour que vous compreniez comment on en est arrivé là, en fait, aujourd'hui, sur la question de la correctionnalisation des viols. Ça va nous permettre de comprendre comment sont construits la définition du crime de viol et la définition de l'agression sexuelle et comment le tour de passe-passe de la correctionnalisation est possible, en fait. Alors, il est d'abord important de vous dire ou de vous rappeler pour certaines personnes dans cette salle que les femmes, jusqu'en 1938, sont considérées comme des incapables juridiques au même titre que les mineurs. Elles ne peuvent pas exercer seules un droit. Elles sont obligées de passer par un tuteur, qui est toujours un homme, évidemment, qui est en général leur père, puis ensuite leur mari, et en tout cas, et en tout état de cause, un homme de leur famille. Dans ces conditions-là, et ce jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les femmes ne sont ne peuvent être ni magistrates, ni avocates, ni même surtout pas parlementaires. Enfin, s'il y avait des avocates déjà avant, je me suis trompée. Donc, ni magistrates, ni parlementaires. Et donc, elles n'ont ni pensé, ni appliqué les lois qui les concernent au premier chef. Ça, il faut bien quand même l'avoir en tête. C'est assez récent, finalement, dans notre histoire, que les femmes prennent une part dans ce débat. Alors, en 1791, apparaît pour la première fois dans une loi écrite l'interdiction du viol. Puis, c'est le code pénal qui est entré en vigueur en 1810, on est à l'époque de Napoléon, qui va, pour la première fois, nous donner une définition claire, enfin, justement pas claire du viol. Il va nous dire... que toute personne qui aura commis, donc quiconque aura commis le crime de viol ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur avec violence contre des individus de l'un ou l'autre des sexes sera puni de la réclusion. Réclusion, c'est la prison. Hein. Donc cette définition n'en est pas une, puisqu'on nous dit quiconque aura commis le crime de viol, on ne nous dit pas ce qu'est le viol. On ne sait pas ce que ça recouvre. Ce qui est important de savoir, c'est que l'attentat à la pudeur, ça désigne ce qui est maintenant considéré comme des agressions sexuelles. Donc ça, c'est important que vous en rappeliez pour après. Et la seule chose, du coup, qu'on sait dans cette définition, c'est qu'on doit exercer la violence pour que ça soit constitué. Il faut qu'il y ait de la violence physique pour que le crime soit constitué. Mais dans les faits, que se passe-t-il ? Dans les faits, ne sont poursuivis que les hommes qui violent une femme qui n'est pas leur épouse. Parce que à l'époque, il faut bien se rendre compte d'une chose, le viol conjugal, ça n'existe absolument pas, hein, c'est pas du tout dans l'air du temps. D'ailleurs, ça va pas l'être avant très longtemps, le viol conjugal, hein, ça a été consacré, entre guillemets, en 1991 en France, hein, donc c'était hier. Hein. Et à l'époque, la valeur qu'il faut protéger... C'est la sauvegarde de la famille et d'empêcher les naissances illégitimes, les naissances hors mariage en fait. Donc c'est pour ça que, en réalité, on crée un corpus juridique pour essayer d'empêcher ça. Et par là même, du coup, on protège le droit de propriété des hommes sur leur épouse, évidemment, et sur leurs enfants. Alors. Ensuite de ça, en 1857, un arrêt important va être rendu. Dans cette affaire, un homme va déposer plainte pour son épouse, puisque je vous rappelle qu'elle ne peut pas déposer plainte elle-même. Et elle a été victime d'un viol commis sans violence. Et ce qui, du coup, normalement, ne rentre pas dans les prévisions de la loi. Alors, le cas de cet arrêt, qui va s'appeler l'arrêt Dubas, c'est Monsieur Dubas, c'est le voisin du mari. Il s'est introduit de nuit dans la chambre de madame. Il s'est fait passer pour son mari, donc il faisait obscur. Elle n'a pas vu que ce n'était pas son mari qui était là. Il lui a donc imposé des actes sexuels, et donc une pénétration sexuelle au moins. Et il n'a pas eu besoin de la violenter. En fait, il a agi par ruse, par surprise. C'est comme ça qu'on va ensuite l'appeler. Et donc l'arrêt Dubas va consacrer le viol par surprise. Ce qu'on disait à l'époque, c'est qu'elle a été trompée sur la marchandise. C'est comme ça qu'on disait. Voilà, bon, c'est, vous en jugerez vous-même. Donc cette définition, l'arrêt Dubas va consacrer le viol par surprise, mais il va aller plus loin. Il va enfin donner une définition au viol. Il va nous dire « Le crime de viol consiste dans le fait d'abuser une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l'auteur de l'action. » Bon, c'est très langage 1857, hein, vous l'avez remarqué. Ce qui est important de retenir, c'est que dorénavant, on peut invoquer, les femmes peuvent invoquer, l'exercice d'une violence physique, l'exercice d'une violence morale, une contrainte ou une surprise. Pour dire qu'elles ont été victimes de viol. Mais bon, tout ça est quand même très théorique, hein, à cette époque. Dans les faits, ne sont poursuivis quasiment que les viols commis avec violence. Et c'est là où la correctionnalisation commence à faire son entrée, c'est que ce qu'il se passe en réalité, c'est que les viols avec violence, qui sont les seuls à être poursuivis, sont déqualifiés massivement en délit de coups et blessures. D'accord ? Donc en fait, il y a très peu de jugements pour viol, pour crime de viol, il y a des jugements pour des délits de coups et blessures. Alors, le prochain événement historique qui est important pour notre sujet de ce soir nous fait faire un bond en 1974. On saute plus d'un siècle. Cette année-là, vous en avez probablement entendu parler, peut-être dans votre parcours, deux femmes lesbiennes qui campent sur une calanque à Marseille, sont victimes d'une nuit de viol atroce par trois hommes en réunion. Et je vous le donne en mille, pourquoi ont-ils été poursuivis ? Vous n'avez pas suivi. Pour coups et blessures, devant le tribunal correctionnel. Donc on est en 1974, on est quand même finalement pas si loin d'aujourd'hui. Et à cette époque, on est quand même à un moment assez historique pour les droits des femmes, puisqu'il y a des mobilisations massives féministes en France. Enfin, massives, pas tant, mais bon, on pourrait être à l'objet d'un débat. Et en fait, ces femmes vont être soutenues par Gisèle Halimi, qui va obtenir du tribunal correctionnel qu'il se déclare incompétent et renvoie ces hommes devant la cour d'assises pour viol. Et c'est comme ça qu'il va y avoir un des premiers procès très importants, qui va être le procès d'Aix, on va appeler ça le procès d'Aix. Ces hommes vont être jugés devant la cour d'assises d'Aix en Provence, et ils vont être condamnés en mai 1978. Ce qui est important, là, de savoir, c'est que ça va déclencher, en fait, le dépôt d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour essayer de faire changer les choses, d'accord ? Ce que dénonce tout le monde, et notamment les féministes, les militantes féministes, c'est la correctionnalisation. C'est le fait que le viol n'est pas un crime. On n'arrête pas de... D'ailleurs, on dit souvent c'est depuis là que le viol est devenu un crime. En fait, c'est pas vraiment vrai, parce que théoriquement, c'était déjà un crime. Hein. Sauf que là, ça va donner l'objet à la loi de 1980, hein, qui est celle qui a instaurer une définition du viol dans le code pénal. Et le problème, c'est que dans cette loi, aucune disposition n'est votée pour faire interdire la pratique de la correctionnalisation. En fait, c'est une pratique judiciaire. C'est pas, le problème, c'est pas comment écrit la loi, c'est que les juges le font quand même. Donc ça, il n'y a aucune disposition qui l'interdit. Et malheureusement, au contraire, on va malheureusement rendre ça beaucoup plus facile. c'est le, notre propos de ce soir. Puisqu'en effet, le Parlement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diviser en deux la définition du viol qui avait été dégagée dans l'arrêt Duba. Il va, d'un côté, définir le viol et il va reprendre la définition dégagée par, par cet arrêt. Il va nous dire maintenant que le viol est une pénétration sexuelle commise avec violence, contrainte et surprise. Ça, c'est pour le viol. Mais il va aussi créer un délit d'agression sexuelle. Donc c'est le fameux, les fameux attentats à la pudeur de tout à l'heure, si vous avez suivi notre propos, ce qui, on sait qu'il n'est pas toujours simple. Les attentats à la pudeur deviennent des délits, alors qu'avant c'était des crimes. Donc en fait, on va créer deux choses parallèles et on va nous dire que le délit d'agression sexuelle, c'est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte et surprise. Vous aurez compris, pénétration sexuelle avec violence, contrainte et surprise, atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte et surprise. On peut donc très facilement transformer le crime de viol en délit d'agression sexuelle en supprimant, en oubliant la pénétration. On n'a même plus besoin de correctionnaliser en coups et blessures, et donc d'avoir, de prouver les coups et blessures pour pouvoir correctionnaliser facilement. Alors, la définition du viol qui est issue de la loi de 80 a quasiment inchangé aujourd'hui. Il faut juste savoir qu'en 1994, on a rajouté la possibilité de que le viol soit constitué par l'exercice de menaces. Donc il y a violence, contrainte, surprise et menace. Et une dernière modification a eu lieu récemment, donc Clémentine vous parlera ensuite.
Moi, en effet, je vais repartir donc, de 1980 et de la création du crime de viol et du délit d'agression sexuelle. Et je vais faire un détour par plus précis par les définitions de ces infractions. Alors, on va d'abord prendre la définition du viol. Donc, je la lis avec vous. Hein. « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Ouais. » Alors. En gros, voilà comment est rédigée une infraction. Ce qu'on peut voir, c'est que font partie de l'infraction ce qu'on appelle des éléments matériels. Alors, c'est quoi les éléments matériels? C'est ce qui précise la nature des violences. C'est-à-dire que pour pouvoir caractériser un viol, il faut qualifier les faits, c'est-à-dire il faut prouver la réalité de ces éléments matériels. Donc, il y a trois types d'éléments matériels que je vais vous détailler. Le premier élément matériel, c'est la pénétration sexuelle. Il faut qu'il y ait eu P, enfin, qu'on prouve qu'il y a eu pénétration sexuelle. Alors, évidemment, ça recouvre divers actes, puisqu'on entend par pénétration sexuelle à la fois des pénétrations vaginales, anales ou buccales. Et il existe deux types de pénétration sexuelle, soit l'introduction d'un pénis dans le vagin, l'anus ou la bouche de la victime, soit l'introduction de doigts ou d'un objet dans les organes sexuels, c'est-à-dire vagin et anus de la victime. Alors, vous l'aurez compris, la pénétration implique l'introduction dans un orifice, c'est-à-dire que ça exclut le cunnilingus imposé à une femme ou le toucher de la vulve d'une femme. Donc ces actes sont considérés comme des agressions sexuelles. Or, pour un certain nombre de femmes, le fait, par exemple, d'introduire des doigts entre les lèvres vaginales est considéré comme une pénétration. Donc là, on voit bien qu'il y a aussi une dimension arbitraire du droit qui définit ce qui relève de la pénétration ou non. Donc, deuxième élément qu'il faut caractériser, deuxième élément matériel qu'il faut caractériser, c'est la désignation de la personne sur laquelle a eu lieu la pénétration. Donc là, tel que rédigé dans les années, en 1980, c'est sur la personne d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un acte de pénétration sexuelle de l'agresseur sur la victime. Alors il y a eu une modification en août 2018, puisqu'on a ajouté sur la personne de l'auteur. Alors concrètement, c'est pas très lisible comme ça. je vous donne un exemple. C'est par exemple un homme qui met le sexe d'un petit garçon dans sa bouche. Dans ce cas-là, c'est l'auteur qui est pénétré, c'est-à-dire que c'est le violeur qui est pénétré, donc l'auteur de l'infraction qui est pénétré. Troisième élément matériel, ce sont ce qu'on appelle les modes opératoires. Donc c'est ce qui relève de l'arrêt du bar, hein, dont vous a parlé Laure, violence, menace, violence, contrainte, menace ou surprise. Alors, La loi, elle est assez silencieuse sur ce qu'on met derrière chacun de ces termes. Donc, c'est au juge de faire ce travail d'interprétation. Alors, je vous propose un exercice pratique, c'est-à-dire je vous propose de vous mettre à la place des juges et d'essayer de définir chacun de ces termes. Donc, d'après vous, qu'est-ce que les juges entendent, par exemple, par violence ?
Oui, blessure, comme on dit.
Ouais.
Saisir quelqu'un pour l'immobiliser.
Oui.
Des insultes.
Alors, je vais déjà rebondir sur vos suggestions. Merci. Alors, on voit bien que, d'après ce que vous m'avez mentionné, il existe différentes formes de violence. Enfin, en tout cas, nous, ce qu'on entend par violence, ça couvre un spectre assez large. Mais en fait, les juges retiennent, eux, une définition assez restrictive de violence, puisque là, ils ne retiennent que les violences d'ordre physique. C'est-à-dire, par exemple, les violences psychologiques n'entrent pas dans la définition des violences. Alors, je reviendrai sur l'immobilisation et les insultes, puisqu'elles sont retenues, mais pour un autre des modes opératoires. Donc, même exercice pour la contrainte. Est-ce que, enfin, à quoi cela vous renvoie ? Qu'est-ce qu'on pourrait inclure derrière le terme contrainte ?
Avoir une arme. Un rapport de domination.
Ouais.
Bah, immobiliser, je passerai dans cette catégorie.
Ouais. Une autre idée ?
Chantage.
J'ai entendu chantage.
Ouais, mais du coup, j'ai eu menace après. Je me suis...
Ouais. donc, là aussi, on voit bien qu'il existe différentes formes de contraintes. Donc, il existe des contraintes d'ordre physique, le fait d'être maintenu, bloqué. Donc ça va avec l'immobilisation que vous avez mentionnée, mais par exemple aussi le fait d'être enfermé. Mais il existe aussi un ensemble de contraintes dites morales qui sont liées par exemple à la position d'autorité qu'occupe l'agresseur ou par exemple un rapport de domination financière entre la victime et l'agresseur. Alors, dernier mode opératoire, la surprise. Rappelez-vous l'arrêt du bas.
C'est de là que... La dissimulation de son je sais pas.
Je note.
C'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur être trompé sur la marchandise. Dans le sommeil, quoi.
Ouais.
Dans le noir.
J'ai oublié la menace, non ?
Ouais.
Je voulais. Bravo, personne, pas dans l'ordre.
Avec la drogue,
ça ? Ouais.
Il y a une.
Ouais.
La sidération.
La sidération ?
Ouais.
Alors, en effet, il y avait une dernière.
La tromperie, elle est.
Donc, en effet, les juges considèrent comme des surprises toutes les situations où il est impossible pour la victime de s'y attendre. Donc, en effet, rentre dans cette catégorie le sommeil, le fait d'être endormi, le fait d'être drogué, mais aussi, en effet, des viols sous couvert de gestes médicaux. Alors. Oui. Alors, ça rentrera pas dans la surprise, voire même ça, c'est une circonstance aggravante. Et en fait, les circonstances aggravantes ne peuvent pas servir à qualifier le mode opératoire. Ça peut pas être un élément qui sert à définir la contrainte, la violence, la menace ou la surprise. Et c'est là aussi, il y a justement, c'est. Bah, peut-être qu'on y reviendra dans les questions parce que c'est quelque chose d'important, mais. Alors, du coup, comme j'ai oublié la menace, on y revient. Alors, Qu'est-ce que recouvre ce terme menace selon vous ?
Chantage.
Chantage. Menace d'abandon ou... Alors, ce que les juges vont considérer comme des menaces, c'est en fait toutes les représailles annoncées à la victime si jamais elle ne se plie pas à la demande de l'agresseur. Alors, pour que ce soit considéré comme une menace, il faut qu'elle soit orale, qu'elle soit annoncée, donc qu'elle soit explicite. Donc, on va voir qu'il y a un certain nombre de menaces qui sont implicites, mais qui, là, ne sont pas retenues par les juges. Donc, en effet, pour qu'elles soient orales, annoncées, explicites, un exemple, c'est les menaces de mort ou les menaces de dommages corporels en cas de résistance ou de refus. Donc, voilà pour les éléments matériels. Alors, je vous le disais, en fait, il faut absolument faire reconnaître l'un de ces modes opératoires pour pouvoir qualifier le viol. Or, c'est tout l'enjeu, souvent, on va voir que c'est un enjeu de la correctionnalisation, puisqu'il est difficile, le plus souvent, de qualifier l'un de ces modes opératoires. Pourquoi ? Parce que la majorité des viols sont commises par des proches, des personnes qui font partie de notre environnement quotidien. Donc que ce soit le conjoint, des amis, l'environnement familial, mais aussi par des personnes qui exercent une position d'autorité, qui exercent des fonctions d'autorité. Donc là, on peut penser aux professeurs, aux animateurs, aux médecins. Or, la plupart du temps, ces personnes n'ont pas besoin d'utiliser des violences ou des contraintes physiques, ni même des menaces explicites pour pouvoir... exercer la violence. Typiquement, dans le cas de violence conjugale, par exemple, les femmes anticipent qu'en cas de refus, la violence va être surenchérie. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de menaces explicites pour qu'elles se plient. Et donc, finalement, le mode opératoire qu'utilisent le plus classiquement les agresseurs, c'est la contrainte morale, et qui est liée à cette position, justement, de domination de l'agresseur vis-à-vis de la victime. La difficulté, en fait, le fait que ce soit difficile de qualifier cette contrainte morale, ça va être un argument qui va être avancé en faveur de la correctionnalisation. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les viols qui sont assez mal calibrés, c'est-à-dire justement pour lesquels le mode opératoire qui a été utilisé est la contrainte morale, vont le plus souvent être requalifiés en agression sexuelle. Est-ce que ça va ? Ok. Alors, il y a un autre élément qui n'apparaît pas explicitement dans la définition du viol, mais qui est également fondamental, c'est ce qu'on appelle l'élément intentionnel. Donc, je vous ai dit, il y a les éléments matériels, mais il y a aussi l'élément intentionnel. L'élément intentionnel, il est sous-jacent à toutes les infractions pénales. En fait, c'est le fait pour l'auteur d'avoir agi intentionnellement. Il faut prouver que l'auteur a agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il savait... qu'il agissait en conscience et donc qu'il a commis volontairement l'acte transgressif. D'accord ? Or, en matière de viol, on considère que l'agresseur, du coup, il a agi intentionnellement s'il sait qu'il a outrepassé l'absence de consentement de la victime. Le problème, c'est que, aux yeux de la société, et donc a fortiori aux yeux des magistrats, une victime qui... Enfin, une femme qui n'est pas consentante est supposée avoir résisté, s'être débattue, etc. Donc ce que vont rechercher les magistrats, c'est la résistance sérieuse de la victime pour pouvoir qualifier si oui ou non l'agresseur a pu se méprendre sur l'absence de consentement. Or, comment se défendent les agresseurs le plus souvent ? Ils disent... qu'ils pensaient qu'elle était consentante, qu'ils ne se sont pas aperçus qu'elle n'était pas consentante parce qu'elle n'a rien dit ou elle n'a pas bougé. Alors ça peut étonner, mais ce type de défense convainc. Autrement dit, quand bien même la victime ne bouge pas, qu'elle ne dit rien, qu'elle est figée, monsieur a pu se dire qu'elle était d'accord. En fait, ce que ça entérine, ce genre de raisonnement, c'est une conception de la sexualité des femmes qui est non participative, qui est passive. D'ailleurs, regardez l'expression couramment utilisée, qui ne dit mot consent. Alors, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'évidemment, les marges de manœuvre dont dispose la victime pour résister sont réduites du fait de notre éducation. Nous ne sommes pas habitués à porter des coups, enfin, on ne nous a pas éduqués à nous défendre, etc. Mais supposer aussi qu'on peut résister, c'est méconnaître justement ce que vous avez mentionné, la sidération ou le mutisme, qui sont des mécanismes, des réflexes qu'on active en cas de peur. Et justement, c'est cette sidération que les juges ne prennent pas en compte pour faire reconnaître l'absence de consentement des femmes. Voilà, alors on va passer maintenant à la définition de l'agression sexuelle. Laure vous a dit qu'elle était rédigée en des termes assez semblables. Donc, constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Donc, vous voyez bien, la philosophie est la même. On a des définitions qui sont assez symétriques, puisqu'on retrouve nos fameux modes opératoires qu'il faut qualifier. Et donc le seul élément qui diffère, c'est la présence de la pénétration, l'absence de la pénétration, qui a été substituée par les atteintes sexuelles. Là aussi, la loi est silencieuse, elle ne nous dit pas ce que l'on considère comme des atteintes sexuelles. Alors, je vous remets à l'épreuve, qu'est-ce qui, selon vous, font partie des atteintes sexuelles? Merci Laure.
Alors, je mets ça de côté, j'y reviendrai tout à l'heure. En effet, les juges vont retenir comme des atteintes sexuelles. Alors, je vérifie quand même pour être sûre de ne pas me tromper. Des attouchements sur la poitrine, les fesses, le sexe, les cuisses, les baisers forcés et aussi le contact de toute partie du corps de la victime avec le sexe de l'agresseur. Ce qui veut dire que toute autre partie du corps touchée, sauf poitrine, fesses, cuisses et sexe, ne sont pas considérées comme des agressions sexuelles, mais justement vont être considérées comme du harcèlement sexuel. On ne va pas ce soir développer le harcèlement sexuel. Là aussi, force est de constater que le législateur ne s'est pas demandé quelle partie du corps des femmes, ce qui pour les femmes était d'ordre sexuel dans leur corps. C'est-à-dire, par exemple, les hanches, se faire toucher les hanches, est-ce que c'est pas à connotation sexuelle, les baisers dans le cou, etc., etc. Donc là, on a bien une interprétation restrictive de la loi qui va considérer ce qui est sexuel ou non. Pour revenir quand même c'est dans le cœur du sujet, hein, mais il faut faire le lien avec la correctionnalisation. On a bien deux définitions du crime et de l'agression, du viol et de l'agression sexuelle qui sont assez parallèles. Il suffit, le fameux tour de passe-passe dont vous a parlé Laure, consiste à finalement omettre la pénétration pour que l'on puisse opérer ce phénomène de déqualification et donc transformer le crime en agression sexuelle. Donc, ce que je vous ai exposé concerne la législation pour les majeurs. On va maintenant voir avec Laure ce qu'il en est pour les mineurs. Est-ce que la philosophie du droit est la même?
Alors, ouais, honnête, je vois rien. Pour nous, il était fondamental, très concrètement, prendre le droit n'a jamais reçu d'enfant actuellement victime de violences sexuelles. Parce qu'on n'est pas, nous, identifiés comme étant susceptibles de pouvoir recueillir la parole des enfants, et c'est extrêmement compliqué de recueillir la parole des enfants. Nous, on ne l'a pas encore fait. Peut-être que ça arrivera un jour. Il faudrait qu'on se forme plus, davantage. Mais pour autant, il nous a semblé fondamental de ne pas mettre de côté les enfants, parce que c'est exactement la même législation en fait qui s'applique pour eux.
Alors, vous avez peut-être entendu dans les médias ces derniers mois parler de la loi qui a été portée par Marlène Schiappa sur le viol sur les enfants. Une loi qui a été votée cet été, c'est la loi du 3 août 2018. Vous en avez sûrement entendu parler. En fait, le problème, c'est pour ça qu'il y a eu tant de mobilisation autour de cette loi, le problème, c'est que la définition du viol qu'on a vue, c'est la même définition pour les mineurs. D'accord ? Oui, donc elle est partie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand la loi, elle nous dit que le viol, c'est toute pénétration sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, on nous dit que, a contrario, une pénétration sexuelle qui est commise sans ces modes opératoires-là est légale, enfin, n'est pas interdite. Jusque-là, on est OK. Donc, si on lit la loi a contrario, ça veut dire que nous sommes toutes et tous présumées consentantes à une pénétration sexuelle, quelles que soient les circonstances, quel que soit le lieu, quelle que soit la personne avec qui ça se passe. Sauf, et nous ne sommes plus consentantes si nous démontrons que la personne qui a pénétré a utilisé violence, contrainte, menace ou surprise. C'est un raisonnement un peu... Mais c'est juste bien pour vous expliquer que du coup, nous sommes toutes et toutes toujours présumées consentantes à être pénétrées sexuellement. Et que c'est que si on démontre ces modes opératoires que nous ne le sommes plus. Et ça, ça vaut pour les mineurs également. Alors on pourrait se dire... que pour les mineurs, c'est plus simple. Que pour les majeurs, bon, c'est pas forcément évident de démontrer que l'auteur avait bien exercé une contrainte, etc. Mais que pour les enfants, c'est facile de démontrer la contrainte. Ben, c'est pas si simple que ça. Alors quand même, dans sa grande clémence, la Cour de cassation, alors la Cour de cassation n'en a pas parlé, mais c'est la plus haute juridiction dans l'ordre judiciaire français, donc c'est les chefs, c'est ceux qui déterminent la jurisprudence. La Cour de cassation admet qu'en dessous de 5-6 ans, un enfant ne peut jamais consentir à une pénétration sexuelle. Donc ça, ok. Mais alors pour tous les autres, elle nous dit, la Cour de cassation, les sentiments de soumission éprouvés par la victime mineure ne suffisent pas à caractériser la contrainte exercée par l'adulte. Ou la violence, la contrainte ou la violence exercée par l'adulte. C'est pas parce que lui s'est senti soumis, c'est-à-dire que c'est constitué. Or, un adulte est toujours en soi en situation de domination vis-à-vis d'un enfant. Toujours. On nous a tous et toutes appris, depuis que nous sommes nés, qu'un adulte, surtout quelqu'un qu'on connaît, nos parents, nos animateurs, nos professeurs, toutes les personnes qui ont une autorité sur nous, avec qui nous sommes en contact, les enfants sont en contact dans leur vie, on leur doit obéissance, on doit leur obéir. C'est l'adulte qui a raison. Donc les adultes sont toujours en position de domination. Et les enfants sont quasiment toujours victimes de personnes qu'ils connaissent. D'accord ? Parce qu'un enfant, par définition, se balade assez rarement tout seul dans la rue ou fait des choses toute seule dans sa vie. En fait, il est quasiment toujours accompagné d'un adulte ou encadré par des adultes. Donc en fait, les gens qui ont accès à des enfants, ce sont des gens qui les encadrent. Donc, les enfants sont victimes, en très grande majorité, de personnes qu'ils connaissent et à qui ils doivent obéir. Pour autant, ça ne marche donc pas. L'obéissance et puis la dépendance matérielle et affective des enfants vis-à-vis des adultes, évidemment, permet toujours de les contraindre, notamment dans le cercle familial. Alors, on n'a pas besoin de les violenter, on n'a pas besoin de les menacer, on n'a pas besoin de les surprendre. On les contraint toujours, mais ça va être compliqué pour eux de démontrer qu'ils ont été contraints. Alors, on a créé, le législateur est toujours très fort pour faire des tours de passe-passe, on a créé un délit d'atteinte sexuelle sur mineur spécial pour les enfants. Et donc, c'est le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans. Et c'est puni comme l'agression sexuelle de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Alors vous en avez entendu parler, c'est l'affaire de Pontoise. Vous avez peut-être lu les journaux il y a quelques mois, c'était l'année dernière,
qui d'ailleurs est à l'origine de la loi Chiappa de cet été. Dans cette affaire, on a un homme de 28 ans qui a pénétré sexuellement une enfant de 11 ans et qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise. Dans cette affaire, cet homme, elle ne le connaissait pas vraiment, mais c'était quelqu'un de son quartier qu'elle avait déjà vu. Elle connaissait son visage, je crois dans mon souvenir, elle lui avait déjà dit bonjour. Et en fait, il l'aborde au square, et il est très gentil, hein, ce monsieur, il ne la menace pas, il lui parle gentiment, il la met en confiance, et puis elle le suit jusqu'à chez lui. Et puis arrivé chez lui, il n'a pas besoin de la violenter pour lui dire « bah maintenant, on va faire des choses sexuelles, elle ne connaît pas la sexualité ». Et donc, elle exécute ce qu'il lui demande. Sauf que ça ne lui plaît pas trop, mais bon, voilà. Et puis, c'est ensuite qu'en en parlant à sa mère, etc., elle dit « mais c'est un viol » et dépôt de plainte, etc. Et les juges n'ont apparemment, dans cette affaire, pas réussi à caractériser la contrainte. Enfin, c'est même sûr, ils n'ont pas réussi à caractériser la contrainte. Alors, depuis plusieurs années, les associations de droits des enfants, les associations féministes se mobilisent pour essayer de faire renverser la vapeur, parce que c'est un scandale, en fait, c'est la question des violences sexuelles sur mineurs. Et du coup, le législateur, il tente d'essayer de définir la contrainte pour aider les magistrats, comme s'ils étaient un peu bêtes et puis qu'ils ne savaient pas trop comment faire. Donc, en 2010, on a eu d'abord une loi qui nous a dit « la contrainte peut être physique ou morale. » Merci. « La différence d'âge, elle peut être caractérisée par la différence d'âge entre la victime et l'auteur. » Ou elle peut être caractérisée par l'autorité de droit ou de fait que l'auteur a sur la victime. Bon, ça, c'était en 2010. L'affaire de Pontoise, c'était en 2017. Ça n'a pas suffi à permettre au juge de s'en sortir. Donc, avec la loi Chiappa de 3 août 2018, on est venu nous dire que l'autorité de fait, ça pouvait découler de la différence d'âge significative entre la victime et l'auteur. Et aussi, peut être caractérisée par l'abus de vulnérabilité de la victime qui n'a pas le discernement nécessaire pour comprendre les actes sexuels. Bon, vous aurez compris. En réalité, on a beau faire tout ce qu'on veut pour essayer de définir la contrainte, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que c'est en ça que les associations de droits de l'enfant et les associations féministes se sont mobilisées, c'est qu'il faut définir un âge en dessous duquel un enfant n'est jamais consentant à être pénétré par un adulte. Enfin, ça paraît être des évidences, mais ce n'est pas du tout une évidence juridique. Donc certaines ont parlé du seuil de 13 ans. En dessous de 13 ans, un enfant ne peut jamais consentir. D'autres ont parlé du seuil de l'âge de 15 ans. D'ailleurs, Emmanuel Macron en personne avait souhaité que ça soit l'âge de 15 ans. Ça n'a pas été retenu. Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est quand même assez compliqué. Mais donc, la législation en est toujours là. Il n'y a toujours pas d'âge en dessous duquel un enfant ne peut pas consentir. En attendant que la loi elle évolue, hein, et je pense qu'on y arrivera un jour, le délit d'atteinte sexuelle sur mineur, qu'on a dit tout à l'heure, permet de déqualifier massivement, de correctionnaliser massivement les viols sur mineurs. Puisque du coup, pour les adultes, on va correctionnaliser en agression sexuelle, ce que vous a expliqué Clémentine tout à l'heure, et pour les enfants, on va même plus avoir besoin de s'inquiéter de la violence, de la contrainte, de la menace, de la surprise. C'est l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise. Donc comme ça, on peut correctionnaliser massivement les viols sur mineurs.
Pour expliquer le processus de la correctionnalisation des crimes de viol, on va lister en fait les étapes de la procédure judiciaire à partir du dépôt de plainte. Et notre propos sera illustré par des super dessins que vous retrouverez dans le livret qu'on vous fournira tout à l'heure, à la fin de la conférence. Donc, en premier lieu, une femme victime de viol va aller déposer plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie pour viol. Dans la pratique, on constate déjà que cette étape est déjà difficile pour les victimes. En effet, les policiers méconnaissant les violences sexuelles et leur impact sur les victimes rendent le dépôt de plainte assez difficile. Les victimes font trop souvent face à des minimisations des faits des violences qu'elles dénoncent, de la culpabilisation des victimes, leur taux d'alcoolisation, leur tenue vestimentaire, Et aussi, elles font face aux lourds questionnements sur leur résistance et leur réaction qu'elles ont opposées à l'agresseur. Et comme on en a parlé tout à l'heure, on ne prend pas en compte la sidération. Un autre reproche qu'on leur fait est le délai entre les faits et le dépôt de plainte. Que ce soit 10 ans, 1 an ou 10 heures, on leur reprochera dans tous les cas. Ce type de comportement par les agents peut être vécu plus par certaines victimes comme un interrogatoire plutôt qu'un dépôt de plainte.
Alors, à la suite de ce dépôt de plainte qui peut être difficile, une enquête préliminaire est réalisée soit par la gendarmerie, soit par la police. Donc, à l'issue de cette enquête préliminaire, en fait, la procureure, qui est une sorte de chef de la police, juge qu'il y a assez d'éléments dans le dossier, des éléments de preuve. Elle demande du coup l'ouverture d'une instruction criminelle. C'est aussi une enquête. Et donc, celle qui va diriger l'instruction criminelle, donc cette enquête, se nomme une juge d'instruction. Alors, cette enquête peut durer plusieurs années. Et à sa fin, la juge d'instruction informe qu'elle clôt l'enquête. Alors, c'est à ce moment-là, de la clôture de cette enquête, qu'intervient l'article 175 du Code de la procédure pénale. Par cet article, la juge d'instruction considère qu'elle a tout instruit dans le dossier, c'est-à-dire en fait qu'elle a déployé tous les moyens d'enquête possibles, donc elle a entendu les témoins, elle a entendu l'accusé, elle a entendu la victime, etc. À ce moment-là, toujours, de cet article 175, l'accusé et la victime ont la possibilité de faire ce qu'on appelle des observations. En d'autres termes, en fait, ces personnes peuvent faire des remarques sur la qualification des faits. Elles peuvent aussi voir s'il manque une expertise médicale ou, par exemple, s'il y a d'autres témoins à entendre.
Donc, au même moment de l'article 175, la procureure est elle aussi informée de la fin de l'instruction. Et on l'informe parce qu'elle doit donner son avis, c'est ce qu'on appelle les réquisitions du procureur. Elle doit dire si elle estime que les faits sont bien constitués et s'il y a suffisamment de charges contre l'accusé. C'est à ce stade que la procureure appelle la juge d'instruction, comme on a vu dans la scénette, et qu'ensemble, elle s'interroge d'une mise en accusation aux assises ou d'un renvoi au tribunal correctionnel. Cette interaction est officieuse, il n'y aura pas de trace écrite de leur échange. À ce moment-là, il est aussi possible qu'elle ne soit pas d'accord. Mais dans l'hypothèse où la procureure souhaite une correctionnalisation, il devient risqué pour la juge d'instruction de la contredire parce qu'elle se mettrait potentiellement l'État, donc la procureure, incarnée par la procureure, à dos. Et le risque étant pour la victime que la procureure ne lui donne pas son soutien lors de ses réquisitions au procès. Alors qu'en fait, ces réquisitions, l'avis du procureur, ont une influence sur le verdict, enfin, ont parfois une influence sur le verdict du procès.
Alors, donc, une fois que la correctionnalisation est envisagée par la procureure et la juge d'instruction, cette juge d'instruction appelle l'avocate et propose donc une correctionnalisation du crime de viol. Alors, il y a des arguments qui sont avancés, donc je vais en citer trois, qui sont généralement avancés. Alors, le premier, c'est que, en fait, les délais d'attente sont plus courts. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, il faut attendre entre 18 mois et 2 ans avant que le procès soit convoqué, devant la cour d'assises. Il faut attendre 9 mois environ pour qu'il le soit devant le tribunal correctionnel. Il y a un deuxième argument souvent avancé, c'est que le procès est moins long et donc moins éprouvant pour la victime. Pour avoir encore un ordre de grandeur, et si vous vous rappelez de la scène, l'avocate donne cet argument à sa cliente. En moyenne, en fait, le procès devant une cour d'assises dure entre 2 et 5 jours, voire beaucoup plus. Alors que devant un tribunal correctionnel, le procès dure quelques heures, mais est jugé parmi des vols de scooters, par exemple. Enfin, un troisième argument qui est généralement avancé aussi, c'est que devant la cour d'assises, donc la décision de condamnation ou d'acquittement est rendue aux 2/3 des jurés. Alors, donc les jurés, ce sont des citoyens et citoyennes comme vous et moi. Donc je rappelle quand même que seules les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être tirées au sort, en fait, et donc être jurées. Et donc ce sont des personnes, en fait, considérées comme non formées en matière de violence sexuelle. Alors que devant le tribunal correctionnel, comme le disait aussi tout à l'heure Clémentine, c'est que cette décision relève en fait uniquement de juges professionnels, qui certes ont à juger régulièrement des affaires de violence sexuelle, mais qui ne sont pas pour autant formés spécifiquement à des faits de violence sexuelle. En tout cas, c'est ce qu'on pense apprendre le droit.
Donc à ce stade, l'avocate qui a reçu l'appel de la juge d'instruction, si elle est convaincue par cet argumentaire, ou pour des raisons que l'on ne maîtrise pas toujours, sans doute peut-être aussi la rapidité de traitement du dossier de sa cliente, va informer la victime de cette éventualité de correctionnalisation. Mais compte tenu du rapport d'autorité qu'il y a entre l'avocate et la victime, on pense que son information est très orientée. Il paraît difficile pour la victime de contredire son avocate alors qu'il y a ce rapport d'autorité et qu'elle-même méconnaît le système judiciaire. Et comme on voyait dans les CNET, la victime pose des questions et en fait l'avocate, elle répond toujours dans le même axe, quoi. Enfin, vers la correctionnalisation. Et elle oublie les arguments, enfin les informations négatives, quoi. Et donc depuis 2004, avec la loi Perben 2, la correctionnalisation est actée à partir du moment où la victime ne s'y oppose pas expressément. Ne rien dire, ne pas s'opposer, revient à accepter. Il faut avoir en tête que dans le cadre de cette loi, la victime ne pourra plus contester la correctionnalisation une fois à l'audience au tribunal correctionnel si elle était accompagnée d'une avocate. Ce qui avait parfois lieu auparavant, de temps en temps, quand l'avocate était convaincue de l'injustice de la correctionnalisation. C'était le cas qu'on a vu avec Laure au procès des deux lesbiennes victimes de viol à Marseille, là, en 1974. Ouais, donc elle a... invoqué l'incompétence du tribunal correctionnel pour juger les faits de viol. Donc si la victime ne s'y oppose pas, la juge d'instruction, en accord avec le procureur, renvoie devant le tribunal correctionnel, c'est ce qu'on appelle donc la correctionnalisation, et à ce stade, le crime disparaît et se fait remplacer par le délit d'agression sexuelle.
Il s'agit de Pélipa, donc son nom a volontairement été changé. Donc Pélipa a déposé plainte contre son ex-mari pour viols conjugaux répétés, assorti de 22 ans de violence conjugale. Alors, au moment où l'enquête, l'instruction, est fini, donc la juge d'instruction et le procureur décident d'une correctionnalisation. Cette option est donc présentée à Pélipa par son avocate, avec les arguments qu'on vient d'entendre, le procès qui dure très longtemps, les délais d'attente, etc. Donc Pélipa saisit prendre le droit à ce moment-là, en fait, car elle ne comprend pas cette proposition que lui fait son avocate. Donc à prendre le droit, nous, on va lui exposer les avantages et les inconvénients d'une correctionnalisation des viols qu'elle a pu subir. En fait, son avocat ne lui avait décrit que les avantages. Et donc, au vu des inconvénients exposés par prendre le droit, Pélipa décide de refuser la correctionnalisation, car elle veut qu'il y ait un procès aux assises. Et devant ce refus, ce procureur va rendre alors des réquisitions de non-lieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, en fait, son avis est que l'ex-mari de Pélipa ne doit pas être jugé pour viol. Ni au tribunal correctionnel, ni en cour d'assises. Non-lieu. Et donc cet avis de ce procureur oblige donc Pélipa à céder à la correctionnalisation des viols qu'elle a subis pendant 22 ans. Car elle veut un procès. Coûte que coûte. À ce moment-là. Par conséquent, en suivant du coup toute la procédure judiciaire, la juge d'instruction renvoie donc devant le tribunal correctionnel l'accusé. Alors, on va regarder du coup ensemble l'extrait de cette ordonnance de renvoi. Oh là là. Je savais bien que c'était un risque. Voilà, voilà. Alors. C'est pas grave. Donc du coup, ça c'est une ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel. Donc prise par la juge d'instruction. Ok ? Alors, si on lit ensemble. Monsieur a, à plusieurs reprises, tout au long de la procédure, que ce soit lors de sa quatrième audition de garde à vue, de son interrogatoire, ou lors de la confrontation avec son épouse, en 2014, a reconnu qu'il avait pu imposer certaines pratiques sexuelles à son épouse en usant de la force. Donc là, on lit bien que l'accusé a reconnu les faits de violence sexuelle à l'encontre de sa femme. Je continue la lecture. Au vu de ces éléments, il existe des charges suffisantes contre monsieur d'avoir commis des faits de viol sur la personne de son épouse. Donc ici, on lit bien aussi que la qualification en fait, du viol est constituée. Vous voyez ? Donc commis des faits de viol sur la personne de son épouse. Je continue la lecture. Au vu du contexte, il a été proposé aux parties que les faits puissent faire l'objet d'une correctionnalisation. Monsieur a fait part de son accord, etc., etc. Madame a également fait part de son accord, etc., etc. Donc en fait, là, dans ce cas concret, on lit bien que en fait, ce n'est pas la qualification des faits de viol qui pose problème, puisqu'ils sont qualifiés, ils sont reconnus. En revanche, lorsqu'on lit, en fait, au vu du contexte, alors c'est le contexte n'est pas du tout explicité là. On ne sait pas, en fait, de quel contexte ils veulent parler. En tout cas, ils veulent parler de cette juge d'instruction. En fait, nous, on sait que cela fait référence à ces 22 ans de violence conjugale. Donc, au vu du contexte de ces 22 ans de violence conjugale, on peut présumer que des jurés, en cour d'assises, vont avoir des difficultés à comprendre pourquoi Pelipa est restée pendant 22 ans avec un mari dont elle était victime et dont elle a subi des violences conjugales et sexuelles. Ça va ? Et donc, le dernier petit paragraphe, requalifions les faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint en fait d'agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint. Ordonnons le renvoi de monsieur devant le tribunal correctionnel, etc. Donc explicitement, dans cette ordonnance, les faits de viol sont requalifiés en faits d'agression sexuelle.
Donc quelques mots pour conclure. Donc vous l'aurez peut-être perçu pendant tout le long de cette conférence, on a essayé de distiller des petits éléments d'analyse politique de notre association Prendre le droit, donc d'analyse féministe évidemment. Et là on tenait par ces quelques mots pour conclure de pouvoir aller un petit peu plus loin sur cette analyse politique de ce qu'est la correctionnalisation. Donc qu'est-ce que c'est finalement la correctionnalisation ? C'est une pratique judiciaire massive en matière de viol. Elle s'inscrit dans un contexte global d'une justice patriarcale qui, comme on l'a vu, avec la partie historique qui a été faite par Laure, se poursuit depuis des siècles avec la même logique. Rendre impunie et minimiser la violence sexuelle dont nous sommes victimes. La raison qui n'est pas exposée aux victimes... et que la cour de cassation coûte trop cher à l'État. La cour d'assises coûte trop cher à l'État. Donc, en raison de la prise en charge des jurés, de la mobilisation du personnel de justice pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et on peut aussi imaginer un agenda qui est contraint aussi en lien avec des conditions budgétaires complexes. Pour nous, apprendre le droit, l'argument du coût d'une cour d'assises n'est absolument pas admissible. Le budget de la justice est aujourd'hui anormalement faible, très faible, et il s'agit là d'un choix politique. Par ailleurs, il y a d'autres choix qui sont opérés par l'État sur des priorités vis-à-vis de la politique pénale. On s'aperçoit d'ailleurs dans les médias aujourd'hui, dans tout ce qu'on peut entendre, qu'on va prioriser par exemple l'action sur la lutte contre le terrorisme. Plus récemment, on a aussi priorisé la condamnation, la pénalisation, la poursuite des militants solidaires, par exemple, des personnes étrangères. Les exemples sont nombreux. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la poursuite sur la question des violences sexuelles n'est pas une priorité. Cette absence de volonté politique est notamment liée au fait Et ça, c'est notre philosophie, notre pensée à apprendre le droit et puis peut-être aussi dans d'autres mouvements féministes, qui repose en partie sur ce qu'on appelle la culture du viol. Donc on en parle en ce moment un petit peu plus. Il y a des écrits, hein. Vous pouvez retrouver des choses aussi aujourd'hui plus facilement sur Internet par rapport à cette notion-là de la culture du viol. On ne va pas pouvoir être exhaustive ce soir, ce n'est pas l'objet hein, de décliner sous toutes ses formes cette culture, mais néanmoins c'est important pour nous de pouvoir vous en dire quand même quelques exemples.
Donc je vais vous parler de quelques manifestations les plus évidentes. Premier élément de la culture du viol, une représentation de la sexualité qu'on confond trop souvent avec des violences sexuelles. Cela passe notamment par les représentations médiatiques de la pornographie comme étant de la sexualité. Alors que la pornographie véhicule un rapport de domination des hommes sur les femmes, mais aussi elle érotise les violences sexuelles. Au-delà des images pornographiques, il y a aussi toutes les représentations de la sexualité dans les médias, dans les films, cinéma, publicité. Ou par exemple, on nous montre à répétition des femmes plaquées contre un mur par un homme pour désigner une attirance, apparemment réciproque entre les deux personnes, alors que là on voit une femme contrainte physiquement. Ou encore des femmes qui manifestent qu'elles ne sont pas intéressées par les avances de l'homme, mais la scène suivante, nous les voyons tous les deux dans le même lit. Cela décrédibilise le choix et le désir des femmes, puisque on nous montre qu'elles pourraient changer d'avis facilement et qu'il suffit d'insister. Dans cette logique, la notion de consentement explicite est quasiment toujours absente dans les représentations de la sexualité. Nous utilisons ici le mot de consentement explicite pour une facilité de langage, mais en fait, apprendre le droit, nous préférons parler de volonté, afin de ne pas utiliser un terme où nous sommes encore passives. Parce que parler de consentement entérine le fait que les hommes proposent et que les femmes acceptent. Encore une fois, nous ne participons pas à part égale. Deuxième manifestation de cette culture du viol, on enjoint les femmes à être disponibles à des rapports sexuels. Le devoir conjugal, dit ancien, est encore présent sous d'autres termes comme faire plaisir à son partenaire. Des choses qu'on peut encore lire dans des guides de la sexualité. On mentionne très peu le désir sexuel des femmes. Déjà, on omet de leur dire en cours de biologie qu'elles ont un clitoris, organe principal. Du plaisir féminin. Et donc la sexualité représentée dans les médias est toujours centrée sur la pénétration. On ne voit quasiment jamais de cunnilingus, par exemple, dans les représentations de la sexualité. Pour faire donc un lien direct avec le milieu judiciaire, nous entendons régulièrement aux assises parler de relations sexuelles complètes. Étant entendu par tout le monde que la complète est rapport sexuel avec pénétration et éjaculation. Cette culture du viol imprime les débats judiciaires en matière de viol. Il codifie des rôles attendus de chacun. On attend des femmes qu'elles soient passives. Il est vu d'un très mauvais œil d'ailleurs qu'elles aient une vie sexuelle intense et qu'elles aient des désirs. C'est des questions qu'on leur pose pendant les enquêtes et qu'on retrouve aussi pendant le procès. En revanche, on attend d'elles qu'elles aient résisté farouchement aux agresseurs. Là, elles doivent être très actives, physiquement. Et alors, on se rend compte que c'est deux injonctions paradoxales. Enfin, quand les femmes relatent des violences sexuelles, elles entendent trop souvent des phrases malveillantes prononcées par leurs proches ou par les acteurs judiciaires. Et des phrases qui justifient des violences commises par l'agresseur en désignant les victimes comme coupables. Vu comment elle était habillée, elle l'a cherchée. Elle fait du stop toute seule. Elle se prostituait, elle s'attendait à quoi aussi? Ou encore, en même temps, elle était saoule. Ces phrases nous rappellent que nous ne sommes pas les égales des hommes et que nous n'avons pas la même liberté de consommer de l'alcool, la même liberté de circulation et même la même liberté de nous vêtir.
On observe donc que les viols correctionnalisés sont ceux qui ne correspondent pas à l'imaginaire collectif, aux stéréotypes qui sont véhiculés. Donc, à l'inverse, ceux qu'on va retrouver devant les cours d'assises, c'est ceux qui vont correspondre à ce qu'on considère comme des vrais viols. Alors, c'est quoi un vrai viol? C'est, on l'entend hein, dans les médias, l'inconnu dans la rue avec une arme. Alors si possible, s'il est d'origine étrangère, c'est encore mieux, c'est plus facile. Voir s'il a commis d'autres infractions, qu'il a été déjà, il était un petit peu déjà ciblé par la police. Là, on va voir que ça va être des profils qui vont être davantage ciblés et qu'on va retrouver beaucoup plus facilement devant les cours d'assises. Donc bon, là, je parle même pas des viols collectifs, voilà, quand l'agresseur a plusieurs victimes, etc. Tout ça, c'est autant d'éléments qui peuvent se retrouver devant des cours d'assises, mais c'est pas forcément, ça recouvre pas la majorité des viols qu'on peut retrouver dans notre société. Par ailleurs, la difficulté à faire juger les viols va beaucoup se retrouver du coup sur des viols qui sont commis par des proches. Donc ça, on a pu voilà, le démontrer, en parler assez régulièrement là, surtout le long de la soirée. Et notamment, ces proches, ce sont ni plus ni moins que les membres de la famille. En fait, la famille, c'est le lieu aussi, c'est aussi un lieu d'imaginaire collectif où on imagine la famille comme un lieu de sécurité. Un lieu de sécurité à la fois pour les membres qui la composent, mais c'est aussi un lieu de sécurisation, même plus symbolique, pour toute une société, pour notre société. Donc on est censé y trouver de la protection ou encore un esprit de solidarité. Afin de défendre cet idéal, le système judiciaire, comme le reste de la société, préfère minimiser, voire faire taire les violences sexuelles qui sont commises en son sein. Et d'ailleurs, on retrouve en premier lieu l'inceste. Donc voilà, on ne va pas repartir maintenant sur un débat sur l'inceste, mais c'est aussi un petit peu ouvrir voilà, d'autres perspectives et puis un contexte un petit peu plus large. Pour nous, en fait, à apprendre le droit, on pense, et ça je pense que vous l'avez ressenti, entendu largement ce soir, qu'il est temps de fixer un âge en dessous duquel les mineurs ne peuvent jamais consentir à un rapport sexuel. Nous aimerions aussi que, pour les autres victimes, celles pour lesquelles il n'y a pas d'âge de préciser, les hommes mis en cause pour viol aient, de leur côté, démontré la manière dont ils se sont assurés de la volonté des femmes qu'ils prétendent consentantes. Ça, on ne le retrouve pas. D'ailleurs, dès qu'on touche à ça, on parle de « ah oui, mais la présomption d'innocence, etc. etc. » Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui est important. Nous ne tenons pas non plus particulièrement à la survie des jurys populaires. Donc, on ne peut pas redévelopper, on en a parlé un petit peu aussi pour la conférence. Donc pour juger des crimes. Donc pourquoi pas des cours d'assises sans jury. Ce que nous voulons, c'est que les hommes qui sont jugés le soient à la hauteur de la gravité des crimes qu'ils ont commis. Autrement dit, quand ils commettent un viol, eh ben qu'ils soient jugés pour viol. Et tant que la société niera le crime de viol, notre monde ne sera pas à l'endroit.